Bonsoir Week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 du dimanche soir en débat jusqu'à 19h. Et avec nous ce soir, je vous le disais, Laetitia Krupa, journaliste politique, Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique et économie de Paris Match et le spécialiste en communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil. Madame, messieurs, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue. Face au Covid, la France a-t-elle vraiment tout faux? C'est le titre du JDD ce matin. Contre-attaque du ministre de la Santé chez nous sur Europe 1, qui déplore par ailleurs, et on va y revenir, l'outrance et les fausses polémiques venant de certains élus contre la campagne de vaccination. Alors, est-ce qu'on peut trouver l'apaisement et mettre aussi en avant nos réussites par rapport à la gestion de crise chez nos voisins? Un peu de positif dans tout ça ne frappe pas de mal. Je ne vous parle pas de cas positifs, mais d'éclairage positif. On vous écoutera, chère grande voix. Et puis, quel modèle pour nos politiques aujourd'hui? On cherche toujours des référents. 25 ans après la mort de François Mitterrand, on s'interroge sur son héritage et ce qu'on en a fait de la gauche à Emmanuel Macron.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
On va commencer traditionnellement avec ce tour de table, coup de cœur, coup de gueule. Qu'avez-vous choisi pour nous ce soir, Bruno Jeudy?
Alors moi, mon coup de cœur n'est pas du tout, j'allais dire, dans l'actualité politique sanitaire, mais c'est
bien,
un livre qui s'appelle
«
La vie en bleu », qui est écrit par Philippe Tournon. Alors c'est pas du tout quelqu'un de connu, il a été directeur de la communication de la Fédération française de foot de 1983. C'est très loin, à l'époque où la France n'était pas encore championne du monde de foot, n'était pas encore championne d'Europe. C'était les Platini et compagnie qui jouaient. Jusqu'en 2018, il a fait 7 Coupes du Monde. Il a vu passer 253 bleus. C'est un livre avec beaucoup d'anecdotes pour ceux qui aiment le foot, mais pas que. C'est vachement bien.
La vie en bleu, Philippe Tournon.
La vie en bleu, Philippe Tournon.
Voilà, on avait dit positif. C'est très bien. Dans la poursuite de l'actualité américaine, Philippe Moreau-Chevrolet, coup de cœur ce soir pour une personnalité des States.
Oui, pour Arnold Schwarzenegger, pour Schwarzy, qui a fait une vidéo assez longue, hein, plus de 7 minutes sur les réseaux sociaux. Et c'est fabuleux. C'est un plaidoyer pour la démocratie. Il réagit évidemment à l'invasion du Capitole. Et il dit des choses extraordinairement personnelles, presque intimes. Il explique qu'il a grandi en Autriche, donc dans un pays qui avait été ravagé par la guerre, et que son père, il explique qu'il ne le dit jamais ça, parce que c'est trop dur, mais que son père, quand il rentrait chez lui, battait ses enfants, donc battait le petit Arnold, était fréquemment ivre, faisait peur à sa mère, et il disait « je lui en ai voulu longtemps, et puis un jour j'ai réalisé que le voisin faisait la même chose, le voisin du voisin faisait la même chose, et s'ils étaient tous devenus aussi violents, c'est parce qu'ils étaient travaillés par la mauvaise conscience, par la culpabilité d'avoir collaboré avec le pire, des régimes de l'histoire. » Et il dit « c'était pas des gens mauvais, mon père n'était pas quelqu'un de mauvais. Ils se sont contentés de suivre et de suivre des mensonges. Et ces mensonges-là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. » En gros, il fait le lien avec aujourd'hui. Mmh. Et il dit « c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a vécu notre nuit de cristal et ce qu'on a cassé, c'était symboliquement le Parlement. » Et ça, c'est extraordinairement violent. Et après, il a un passage un peu plus rigolo, si on veut, où il parle, où il sort l'épée de Conan le barbare. Et il dit, voilà, l'épée de la démocratie.
Charzy, quoi. Oui.
Et l'épée de la démocratie, elle se forge dans le fer. Plus on la met dans le feu, plus on la sort, plus on la frappe, on la trempe dans l'eau, on la remet dans le feu, on la frappe. C'est comme ça qu'on forge une démocratie. Et vous ne réussirez pas à battre notre démocratie. Et il termine en disant, bravo Joe Biden, vive Joe Biden. C'est extraordinaire. Voilà. C'est une défense de la démocratie comme on n'en voit jamais par quelqu'un qui se bat et qui montre bien que la démocratie, c'est pas tendre la joue gauche, c'est se battre. C'est aussi la défendre.
C'est fort et c'est courageux, hein, et c'est une voie qui est suivie. Alors vous pouvez retrouver ce discours, cette prestation
partout sur Twitter,
de 7 minutes.
Sur Facebook, vous tapez Schwarzenegger, vous le trouverez. Alors Schwarzy peut-être plus
Schwarzy,
simple.
Exactement. Laetitia Krupa, vous l'avez
vu. Je vais juste casser un tout petit peu votre élan, Philippe. En fait, c'est la technique de communication d'Arnold Schwarzenegger depuis qu'il est entré en politique.
Donc vous cassez
moi,
pas l'épée de la démocratie, Laetitia.
Bah, elle n'arrivera pas à être trop.
Son storytelling, je l'ai déjà entendu 1000 fois. D'ailleurs, quand il se présente pour être gouverneur de la Californie, il raconte cette histoire de ce père qui le battait quand il était enfant en Autriche. Donc, mais très bien, hein, ça n'en retire rien à la force de cette vidéo aujourd'hui. Et puis aussi, il est rentré à chaque fois dans les passes. Je crois que c'est un des seuls et un des premiers, peut-être avec, après Ronald Reagan, à s'être emparé de ces personnages en fait, de fiction pour les prendre dans sa communication politique et pour s'appuyer sans cesse et faire des allers-retours entre fiction et réalité. Arnold Schwarzenegger, c'est Terminator. C'est Terminator au cinéma, mais c'est Terminator en politique et ça a super bien marché.
Tant c'est que une Terminator technique, nous annonce des bonnes nouvelles du futur qui est que la démocratie va survivre, moi je prends et j'ai trouvé que son discours était extraordinaire.
C'est très efficace.
On n'a pas ça en France. On n'a pas quelqu'un qui est capable de dire il faut se battre pour la démocratie. Et ici, Teddy Roosevelt, et ça, je pense que tous les démocrates doivent entendre cette citation, et je vais en terminer par là, c'est de dire on ne soutient pas un président, on soutient son pays. Donc ne suivez pas le président parce qu'il est le président, suivez votre pays. Et ça, je pense que tous les démocrates du monde entier devraient l'entendre. Ça éviterait bien des erreurs.
Elles sont importantes, ces voix. Hier, à votre place, Anne Fulda nous disait qu'en 10 jours, tout peut se passer, hélas. Hein, entrer en fonction investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain. Bruno, jeudi, on a vu la fragilité de cette démocratie. Donc, toutes ces bonnes ondes sont bonnes à prendre. Vous faites la une, vous, de Paris Match avec Kamala Harris.
Kamala Harris cette semaine, oui, exactement. On avait fait le choix de faire Kamala Harris avant ce qui s'est passé cette semaine. C'est vrai qu'il y a 10 jours entre la passation de pouvoir, à laquelle n'assistera pas Donald Trump, qui a quand même baissé d'un ton. Il a revisité un peu ce qu'il avait dit le jour même de cette incroyable invasion du Capitole. Il a décidé de ne pas aller à l'investiture. Et puis, il était quand même lâché par Pence et quand même pratiquement tous les républicains, parce que non seulement il a lui-même implosé sur cette affaire, mais je pense que les républicains sont en passe d'imploser. Donc, à mon avis, les 10 jours qui restent vont être compliqués pour lui.
Est-ce qu'on aura les photos dans Match de l'invasion du Capitole?
Oui, je pense qu'il va y en avoir pas mal.
Oui, un feuillet. Voilà, deux, trois. Le dossier de la semaine prochaine, Bruno Jeudi est avec nous. Un droit de suite pour vous, chère Laetitia Krupa, parce que le coup de gueule que vous avez livré sur le mensonge ou la fake news colportée par Gérard Larcher a été vu presque 30 000 fois en quelques heures. A fait beaucoup de suites ensuite, dans la presse y compris, et vous voulez y revenir ce soir.
Bah oui, puisque le président du Sénat a répondu au journal du dimanche en montrant deux mails qui devraient être des preuves de ce qu'il a annoncé sur France 2. Or, ce ne sont pas des preuves, puisqu'il a reçu avec sa sœur un mail annonçant que le process de recueillement de consentement allait commencer pour son père, puisqu'il s'agit de son père, hein, dans l'EHPAD. Et le deuxième était un complément d'information, et donc il s'agit bien de ce document de 58 pages. Donc finalement, pardon, mais Gérard Larcher dit toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il se contredit par rapport à France 2. Mercredi, il disait face à Caroline Roux, c'est mon père qui a reçu ce document et donc il s'agit du formulaire de recueil de consentement. Non, ça n'est toujours pas vrai. Voilà, je suis désolée, ce document est édité par le ministère de la Santé. Il est envoyé au directeur d'EHPAD. Si ensuite le directeur de l'EHPAD du papa de Gérard Larcher a fait du zèle, c'est un problème.
On ne sait pas. La direction de l'EHPAD.
Bien sûr. Mais Gérard Larcher ne dit pas la vérité et Olivier Véran lui a répondu d'ailleurs sur Europe 1 ce matin.
Ne prenons pas les Français pour ce qu'ils ne sont pas. C'est pas insultant vis-à-vis du ministre, c'est presque insultant vis-à-vis des Français. Aucun résident d'EHPAD de 85 ans en perte d'autonomie ou 85 ans ou autre ne reçoit 58 pages de documents lui expliquant comment organiser la logistique de la vaccination, avec quel matériel d'injection. Enfin, ce n'est pas le sujet.
Il doit le voir d'ailleurs mardi pour s'en expliquer. Mm-hmm. En fait, ce qui gêne Wendy, c'est la méthode. Bien sûr, on a bien compris où voulait en venir Gérard Larcher et dénoncer les lourdeurs bureaucratiques. Très bien, c'est une bonne chose. Mais la méthode, encore une fois, s'arranger avec la vérité, c'est le danger qui nous guette pour les prochains mois. Je fais le pari ici que la campagne 2022 sera remplie de cette alternative, fact, cette vérité alternative. Vous savez, c'est Donald Trump qui l'a lancé lui-même. Je fais le pari qu'on n'aura que ça. Or, il est urgentissime de renforcer les digues de la vérité dans les prochains mois pour le débat public, politique et pour la confiance et pour, encore une fois, tous les Français.
Oui, et ce qui nous renvoie à l'outrance hein, qu'il dénonce ce matin sur notre antenne, également Olivier Véran, l'outrance de ces élus de l'opposition dans la critique systématique qui nuit aussi au débat. Philippe Morgeau-Vallet et Bruno Jeudi.
Ça nuit au débat et c'est évidemment néfaste de tout critiquer sans arrêt, surtout qu'il y a des choses qui commencent à changer plutôt en positif. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va garder Olivier Véran. C'est le seul qui a l'expérience depuis le début de la crise de ce qui se passe. C'est peut-être pas le sauveur de l'humanité dont on rêverait en France. On attend toujours un homme providentiel, mais en tout cas, il fait le job. Et il se défend. Je trouve que c'est plutôt... il a de l'arrogance. On en parlait avant d'entrer en studio dans sa défense. Il a peut-être un petit défaut d'écoute. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il rend coup pour coup. Il est présent. C'est le seul à faire des questions-réponses avec les Français sur la crise sanitaire. Le seul. Le président ne le fait pas. Le Premier ministre ne le fait pas, ils sont ailleurs et ils ne sont pas dans le débat.
Bah c'est le médecin lui, qui répond à ses patients. Hein.
Oui, mais c'est bien. Quelque part, c'est bien. Mais effectivement, avec les limites du médecin qui est pas beaucoup d'affect.
Bruno Jeudi.
Oui, j'entends ce que dit Philippe. Je connais bien Olivier Véran.
Je sais que je ne défends pas le gouvernement d'habitude.
Je reconnais qu'il est à la hauteur, mais il a quand même un défaut. J'ai écouté un peu ce matin. Il y a quand même ce côté, il ne reconnaît jamais d'erreur. n'a pas fait d'erreur, Olivier Véran. Il a de la chance, il n'a pas fait d'erreur. Je trouve que c'est quand même assez étonnant. Bon, voilà, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils peuvent. Je suis pas du tout... Je peux parfaitement, d'un jour à l'autre, dire ça, ils ont plutôt été bons. La semaine dernière, franchement, sur le début de la campagne vaccinale, c'est Olivier Véran qui vient faire l'éloge de la stratégie de la lenteur. Trois jours plus tard, le président de la République dit ça va pas assez vite. Et en gros, il s'agace, il s'énerve, pour pas dire plus. Et puis finalement, Olivier Véran lui-même vient une semaine plus tard pour dire on va très vite, tout va très bien.
Parce que
donc, il y a quand même des choses assez étonnantes. Bon, après, c'est de la
tout
politique.
Tout est piloté par l'Élysée, en réalité. Donc, le problème, il est là.
Mais ce que je veux dire, c'est que Édouard Philippe savait reconnaître des erreurs.
Oui, absolument. C'est
il a avoué, ce matin, il a avoué.
Édouard Philippe savait reconnaître des erreurs. Olivier Véran ne fait pas d'erreur. L'administration de la santé à l'entendre ne fait pas d'erreur.
Il avouait un manque de clarté dans l'explication de la campagne vaccinale.
Mais ça, c'est une blague.
C'est un euphémisme.
C'est une blague. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'administration de la santé ne fait pas d'erreur. Franchement, l'administration de la santé, elle fait ce qu'elle peut. Mais on ne peut pas dire que ce soit... exceptionnel.
Dans ce cas de regrettable.
Si c'était exceptionnel, on aurait 400 000 personnes peut-être de vaccinées.
Non, mais ce serait bien que ce n'est pas d'enjeux politiques dans cette crise sanitaire.
Aura...
Et là, il n'y a que des enjeux politiques.
Il y en aura forcément.
Or, on est tous face à un virus. On est tous en guerre. Vous le rappelez souvent, Philippe. Et là, pour l'instant, on est encore dans la fragmentation de la société. On est déjà fragmenté, surfragmenté, archipélisé.
On va vers des élections régionales
et présidentielles. Et donc, on va tous être...
Ils ont manifestement voulu... Enfin, notamment Emmanuel Macron, sans doute, de manière excessive, voulu ménager à la fois les provax et les antivax. Ça a été une erreur. En fait, il fallait entraîner les gens qui veulent absolument se faire vacciner. Et au lieu de ça, ils ont quand même découragé beaucoup de personnes qui aujourd'hui continuent à se demander, et quand ils vous disent, peut-être que ça vous arrive, mais alors on peut vraiment se faire vacciner ? Parce que finalement, les Français se posent encore la question, alors que évidemment que ce vaccin...
Il n'y a pas eu de grande campagne d'information à
partir du moment où le gouvernement a mis des plombes à reconnaître qu'il y avait, un, une épidémie, deux, que ça n'allait pas se résoudre en deux jours, et trois, qu'on n'allait pas pouvoir faire business as usual avec un petit plan de relance et des choses comme ça.
Je voudrais vous faire réagir à deux sons, et je sais qu'ils vous feront réagir, puisque vous parliez d'antivax irréductible. Bernard Pivot, invité de C'est à vous cette semaine, il voudra se faire vacciner comme les plus de 75 ans le pourront à partir du 18 janvier. Il ne comprend pas la défiance enracinée de certains Français contre le vaccin, et puis il le dit, comme d'habitude, avec beaucoup d'esprit. Écoutez.
Imaginons qu'un scientifique trouve le vaccin contre la mort. Alors, on fait un sondage national, êtes-vous pour ou contre ? Est-ce que vous ferez vacciner ? Et il n'y aurait pas 100% de oui. Il y aurait des non, parce que à cause des effets secondaires de ce vaccin contre la mort.
Oui. C'est aussi très français, cette protestation systématique.
Il y a un problème en France, c'est que les élites ont mis beaucoup, beaucoup de temps à dire qu'elles allaient se faire vacciner. Les politiques ne le font toujours pas, ce qui est unique.
Ils commencent. J'ai entendu Marine Chapin dire qu'elle voulait se faire vacciner.
Robirola l'a fait à Marseille. Il y en a qui l'ont fait, mais pas tous. Et puis, ce n'est pas endossé par l'État. On aurait besoin que Brigitte Macron se fasse vacciner.
Ah, maintenant, elle n'a plus besoin pour l'instant.
Peut-être. Peut-être qu'elle a été malade.
Petite indiscrétion, parce qu'on a appris qu'elle avait eu le Covid.
Elle
était positive.
Elle a eu le Covid à Noël. À Besançon,
elle était en quarantaine, semaine d'isolement.
Mais elle était malade, elle a eu le Covid.
Elle a été testée positive. Cette information ne nous a pas été livrée, délivrée.
On l'a pas su, non.
Non, on le connaît, on le sait aujourd'hui, Bruno Jeudy. Est-ce que vous avez une analyse à tirer là-dessus ?
C'est un scoop, alors, elle a eu le Covid.
Après, elle a eu le Covid. Après, c'est pas le président de la République, la première dame. Donc,
mais pourquoi ne pas communiquer sur son épouse ?
Elle n'a sans doute pas voulu le faire. Emmanuel Macron, évidemment, l'a su immédiatement. C'est vrai que c'était plutôt surprenant de le savoir avec un décalage.
Le problème, c'est de toujours le savoir après. Je comprends ce que vous dites, Bruno, mais vous savez bien que là, ça éveille encore une fois le soupçon. On ne peut pas, en fait, ne pas tenir compte de la société dans laquelle on évolue. Le couple Macron ne peut pas se dire bon, je ne vais pas le dire parce que, pour des raisons, j'en sais rien, de vie privée, etc. Ils ne peuvent pas oublier cette société des croyances, du soupçon permanent, du complot. Il faut être transparent. Ça évite, ça coupe court à toutes les rumeurs. C'est simple. Enfin, de toute façon, on le sait maintenant. Elle s'est isolée à Brégançon. Qu'est-ce que ça aurait changé de le dire ?
Il n'y a qu'à vacciner Gérard Larcher. Comme ça, tout le monde sera d'accord. Et puis, ça va résoudre un problème.
Attendez, avant une petite pause, je voudrais vous faire écouter un médecin que j'ai reçu moi-même, qui est souvent sur les plateaux désormais de télévision. Il est médecin en santé publique. Il s'appelle Martin Blachier. Et comme d'autres, il commence à s'élever un petit peu sur la logique de la politique vaccinale. C'est-à-dire qu'en Indonésie ou en Thaïlande, par exemple, on vaccine les plus mobiles, les 18-50 ans, et qu'en France, on a fait le choix contraire. Et voilà ce qu'il dit, Martin Blachier.
Moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, on a des doses de vaccins. On a peut-être des gens qui ont 60, 50 ans, qui sont polypathologiques, qui ont peut-être 30 ans d'espérance de vie. Et toutes les doses de ce précieux vaccin, on les met dans des EHPAD où, honnêtement, les gens, ils attendent la mort.
Alors, inutile de vous dire que ces mots, que cette vidéo a fait extrêmement réagir, taclant l'inhumanité de ce médecin qui, par essence, devrait être plus humain que les autres. Bruno Jeudy, vous l'avez vu, cette vidéo, vous connaissez Martin Blachier ?
Oui, je connais bien Martin Blachier, c'est brutal ce qu'il dit. Mm. Je vois la logique qui le conduit à dire ça, mais c'est trop brutal de dire ça aujourd'hui dans un pays où 80 ou 85% des 44 000 personnes qui sont décédées sont des gens, justement, qui ont plus de 75 ans. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'inhumanité à le dire comme ça. Sans doute qu'il y avait les autres pays, il y a eu des logiques un peu différentes qui ont prévalu dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'on aurait pu aussi imaginer de mettre sur le même pied les EHPAD et les personnes âgées qui vivent chez elles, par exemple. Ça n'a pas été le cas. Mais je trouve ça dur, la façon de présenter.
Moi, mon oncle, qui était en EHPAD, est mort du Covid cette semaine. Donc ce que j'ai envie de dire à Martin Blachier, c'est paraphraser Eric Nolot, il y a deux lettres en trop dans Blachier.
Bien, on a compris. Ouais. Et Laetitia Krupa ?
Je pense qu'effectivement, il y a une maladresse qui tue complètement le propos, c'est-à-dire que dire on est en EHPAD, donc on attend la mort, c'est un peu idiot. C'est aussi faux. Donc il y a énormément de personnes qui n'attendent pas la mort, qui ne vont pas mourir demain.
C'est gratuit.
Devant eux. Enfin voilà. Donc en fait, le problème, c'est que quand on a une phrase comme ça, un peu radicale, avec un propos qui tout d'un coup retient l'émotion, vous savez bien comment on est. On est humains, fait plein d'émotions, et donc là, on bloque complètement sur cette phrase, alors qu'il y a une réflexion derrière à mener, et pourquoi pas à débattre. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas du tout voulu aborder ce sujet. C'est comme ça, il l'a encore redit, Olivier Véran.
Oui.
C'est comme ça, on sauve les aînés, c'est un choix, on est humain, et c'est coûte que coûte. Voilà, c'est le choix, très bien, du gouvernement français. On peut aussi avoir un avis différent, se dire que peut-être il faut sauver les anciens actifs, les anciens qui sont un tout petit peu plus jeunes, les anciens qui sont encore dans la société.
Ça n'a pas été tellement discuté pour le coup, voilà. Il y a eu beaucoup de polémiques, mais pour ce qui est des choix dans l'ordre de la campagne de vaccination, il n'y a pas eu beaucoup de débats, il y a plutôt eu consensus dans la classe, politique.
Autant
beaucoup sont contestés, mais pas en France en tous les cas.
La quasi-totalité des pays ont adopté le même système qu'en France, en dehors de l'Indonésie, qui a une population peut-être beaucoup plus jeune et qui a fait un choix différent. Il n'y a pas eu de débat là-dessus, c'est vrai. Après, moi, ce qui m'inquiète dans ce type de déclaration, j'ai réagi un peu viscéralement, parce qu'on ne peut pas réagir autrement à des propos comme ça. Mais,
surtout quand vous êtes touché.
Voilà,
oui.
Il y a quelque chose qui m'inquiète, moi, c'est la banalisation de la mort. C'est le fait qu'on commence à penser que certaines catégories de la population, finalement, s'ils meurent, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est moins grave.
Donc, c'est le contraire de toute la logique du gouvernement.
Voilà.
Je parle bien
de Martin Blachier, je ne parle pas du tout de gouvernement. Le gouvernement est dans une logique inverse.
Oui.
Il faut lui reconnaître le crédit d'avoir choisi une logique inverse qui peut être impopulaire, la preuve, mais qui est humaine.
Et ça se discute. On va aboutir
à soleil vert. On va mettre les vieux dans un coin et on va en faire des pilules à manger. C'est comme ça que ça va se terminer.
Dans l'ordre des gens à vacciner, ils ont quand même modifié une chose qui est assez fondamentale. Et là, ils ont copié ce qui s'est passé en Allemagne notamment. Meilleur élève pour l'instant avec la Grande-Bretagne sur la campagne de vaccination, les soignants. Et ça, pour le coup, c'était une évidence. Puisque vacciner les soignants, les médecins, ils sont au même endroit. Les doses sont là et ça allait beaucoup plus vite. Ouais. Et franchement, pour vacciner beaucoup, c'était plus simple.
Mais en fait, c'est des questions d'opinion. Je suis désolée, il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment question de philosophie, de valeurs, souvent
peur,
de croyances aussi religieuses, d'éducation. Enfin, après, ça dépend dans quelles valeurs vous vivez. Enfin voilà. Donc moi je pense qu'on peut
chrétien,
en discuter.
Mais quand médecin dit ça pose quand même
vraiment des questions. Non, mais on peut en discuter. Simplement, moi, je vois juste factuellement une chose, c'est que effectivement, on s'est tous vraiment confinés, on s'est tous ligués pour sauver les aînés. Il faudrait juste à un moment que les aînés disent merci aux jeunes générations. Je vous assure que pour la solidarité...
Il faut qu'ils sortent à 20h pour applaudir les jeunes, c'est ça que vous voulez dire,
ouais,
Laetitia, ça
exactement. 18h maintenant. Pour la solidarité nationale, ce serait exactement... Oui, c'est une idée. Mais c'est mon idée. On peut ne pas en avoir les mêmes, on peut débattre.
Je voudrais juste rappeler qu'il y a entre 10 et 20% des malades, qui sont plutôt d'ailleurs des femmes jeunes entre 20 et 40 ans, qui ont des séquelles qui sont de l'ordre de 6 à 8 mois, qui sont invalidantes. Et qui sont des séquelles cardiaques, des séquelles pulmonaires, une incapacité de travailler. Donc on ne sauve pas que les vieux, en réalité, il ne faut pas avoir cette idée-là en tête. Et puis ce qui se passe à Londres, c'est une piqûre de rappel. C'est-à-dire que s'il y a une variante plus forte du virus, plus contagieuse, c'est presque pire qu'elle soit plus contagieuse que si elle était plus mortelle. Parce que si elle est plus contagieuse, on a beaucoup plus de malades. Et si les malades sont bloqués à l'hôpital, personne ne rentre. Et donc, des gens meurent.
Alors, parlons factuel. Les grandes voix sont avec nous. Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet et Bruno Jeudy. Avec le dossier et les comparaisons, le tableau quasiment entre les bons et les moins bons que dresse le JDD. Les mauvais points de la gestion française, les bons points aussi. Alors, on nous dit qu'on a une mortalité dans la moyenne, une gestion dans la moyenne. Nous ne sommes ni la meilleure ni la pire des nations. On est plutôt dans les moyens bons élèves. C'est ce que dit une infectiologue. Et on peut s'en satisfaire quand même. Je recevais hier le docteur Jean-Paul Ortiz qui nous disait, c'est vrai, quand on compare, on se console ou on se désole. En l'occurrence, on peut se consoler quand même dans cette gestion de crise, Bruno Jeudy.
Sur la deuxième vague, c'est incontestable. La première vague, on en a beaucoup parlé. Donc là, on sait qu'on n'a pas été, on a sans doute été pris de court, on a mis du temps à prendre les bonnes décisions. En revanche, sur la deuxième vague, incontestablement, les leçons étaient tirées et la gestion à la fois du confinement et du déconfinement sont plutôt meilleurs et donnent des résultats plus satisfaisants. Aujourd'hui, la France gère plutôt mieux la crise sanitaire que l'Allemagne, que la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne avec ce bémol du variant, de la Suisse ou de l'Italie. Donc oui, incontestablement, on s'en sort plutôt mieux, à part les ratés de la début de la campagne vaccinale.
Et ils sont nombreux. En tout cas, les critiques concernent aussi chacune de ces nations. La gestion allemande, italienne,
la stratégie, vous savez, tester, tracer, isoler, qui n'était pas propre à la France, a vraiment été défaillante. Et ils le disent tous, après le premier confinement, au moment du déconfinement en mai-juin, c'est là où la contamination a explosé, parce que finalement, on n'a pas réussi à isoler les cas positifs. Et là encore, le gouvernement, il nous a répondu à l'entrée. Il a dit quoi ? Il a dit non à la contrainte de l'isolement, non au système, par exemple, de l'amende. Nous allons accompagner les cas positifs pour convaincre. C'est vous savez, comme moi, que la défiance est telle. Enfin, je veux dire, ils sont 38%, 36% à faire confiance au gouvernement dans sa lutte contre le coronavirus. Est-ce qu'on peut se dire que tout le monde va effectivement s'isoler quand ils sont positifs ? Est-ce qu'ils ne vont pas au travail ? Enfin, c'est très compliqué, il n'y a pas de contrôle, donc ça nous a échappé. Et juste, la France se distingue parce qu'elle maintient l'école ouverte. Ça, ce sera, à mon avis, à l'actif de la France. Et en tout cas, ce sera l'un des grands points distinctif de la France quand on fera le bilan, parce que là vraiment on est en plein milieu. Faire un bilan, je trouve que c'est un peu trop hâtif.
D'ailleurs, les Français ne le font pas vraiment. Ils tirent je pense qu'ils tirent même pas les leçons politiques de la crise sanitaire aujourd'hui. On n'en est vraiment pas là. Aujourd'hui, l'urgence, c'est quand est-ce que je vais être vacciné. Oui. Et à mon avis, c'est ce qui fait d'ailleurs que finalement, dans les sondages, l'exécutif aujourd'hui plutôt performe, parce que bon, Macron a plutôt vu sa cote remonter ces derniers mois, et comme une sorte de gel un peu de la situation politique, et on verra tout ça sans doute plus tard au deuxième semestre 2021.
Bien sûr, c'est toujours intéressant de savoir qu'en Espagne, en Italie, au Portugal, on peut quand même aller au restaurant, que les théâtres, les musées, les cinémas sont ouverts aussi dans les pays plus latins, avec des jauges évidemment. Philippe Moreau-Chevrolet, c'est trop tôt aussi pour tirer un constat, ou c'est intéressant de voir ces tableaux de comparaison?
Non, il faut garder ces tableaux de comparaison, ce que fait le JDD est très utile, mais il faut mettre la pression en permanence sur le gouvernement. Il ne faut jamais relâcher la pression.
Absolument.
Tous les médecins vous le diront. Il faut absolument être vigilant et leur mettre la pression en permanence, parce que sinon, ils ne progressent pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils progressent. Donc ça, de ce point de vue-là, on ne peut qu'être satisfait des derniers changements. Mais il ne faut surtout pas leur lâcher la bride. On a vu ce que donnait l'administration sans pression.
Bah, la pression sur la campagne, pour la campagne nationale, a fonctionné.
Ça a fonctionné globalement.
Et ça, donc, vive le contre-pouvoir de la presse.
Ils sont bougés. Oui. Ils sont bougés.
Ah oui, ils ont pris une semaine.
Moi, je sais qu'Emmanuel Macron, apparemment, il regardait un peu les chaînes info, il écoutait un peu les médias, parce qu'il y avait un petit.
Il est branché 24 heures sur 24.
La semaine du 31, quand il a vu le début de cette semaine-là, comment ça tournait, c'est pareil, c'est pas pour rien s'il a mis la pression sur son administration.
On joue 2022 sur la vaccination. Hein. Si Macron se plante sur le vaccin, c'est terminé. Il peut remballer les Gaules, il peut aller à la pêche. C'est plus la peine.
La comparaison avec l'étranger était fatale.
Ouais, une saine pression, en tout cas, exercée par les médias que vous représentez. Bruno Jeudy pour Paris Match, Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, professeur à Sciences Po. Ben on va garder Mitterrand pour la semaine prochaine. C'est une année Mitterrand. Ça fera plaisir à l'ami Frédéric Dabi, qui avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Merci infiniment. On se retrouve dans un instant pour le journal de 19h.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.